BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on va faire le point sur la remontée des taux de crédit. On est désormais à 3,3% pour un prêt immobilier à 20 ans. On va faire le point avec Olivier Landrevi, président de CAFPI. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et à vos côtés, Marie Cœur de Roy, spécialiste du marché immobilier. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
3,3%, je crois que ça fait à peu près 0,2%, 20 points de base de plus en l'espace d'un mois, c'est ça?
C'est ça, c'est le rythme qu'on observe depuis presque un an maintenant et qui reste très stable. Et qui malheureusement va certainement se poursuivre. Donc je pense qu'on passera les 4% dans le courant de l'été. Et on peut même penser que si l'inflation ne donne pas des signes de modération rapidement, cette tendance se poursuivra à l'automne. Et sur ce front-là, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque l'INSEE vient de sortir les chiffres du mois d'avril où on voit une inflation qui est à 5,9%. C'est strictement le même niveau sur lequel nous étions il y a un an. Donc on voit que malheureusement l'exercice de maîtrise de l'inflation ne porte pas ses fruits pour l'instant, alors que les cours des matières premières, du pétrole, du gaz sont revenus à leur niveau d'avant le conflit. Donc on commence à voir que le vrai fait générateur de l'inflation, ça n'est pas le conflit en Ukraine, ça n'était pas le conflit en Ukraine, c'est en fait un double laxisme. D'une part monétaire, toutes ces années de taux directeurs beaucoup trop bas, beaucoup trop longtemps, doublé d'un laxisme budgétaire, en particulier pendant la période Covid avec le quoi qu'il en coûte, mais qui se poursuit d'une certaine façon avec des déficits publics.
Mais donc les banques centrales, on disait qu'elles ont mis du temps à réagir, mais en plus, ce que vous nous dites, c'est qu'elles sont responsables en partie ce qui est en train de nous arriver.
J'en ai l'intime conviction.
Mais je vous trouve hyper pessimiste, Olivier. Moi, je reçois plein de communiqués quotidiennement de courtiers qui nous disent « Oh oui, c'est terrible là, mais vous inquiétez pas, 2024, reflux de l'inflation, et bim, les taux vont baisser, ça sera une opportunité de ma boule. Décrochez votre crédit aujourd'hui, c'est pas grave, vous pourrez renégocier l'année prochaine. » Vous y croyez pas, ça?
C'est un espoir que je pouvais avoir il y a encore quelques mois, mais quand je vois une inflation qui refuse de rentrer dans sa boîte, je me dis malheureusement que la remontée des taux de crédit n'est pas terminée.
D'accord, et ça va rester, et vous visez quoi le max possible? Parce que là, à un moment donné, on s'était dit 4,5%, puis après, peut-être que ça va stagner et voire refluer. Vous dites que peut-être que la barre des 5% est à l'horizon
Alors, il reste... Vous savez, le sujet du taux d'usure qui, d'une certaine façon, limite quand même hein, la possibilité de remonter. Donc, je disais 4% dans le courant de l'été. On pourrait imaginer 4,5% d'ici la fin de l'année. Ensuite, au-delà de ça, ça relève de la boule de cristal et c'est un exercice auquel je préfère ne pas me prêter.
En tout cas, on a un peu l'impression qu'on avance en territoire inconnu. Il faut remonter dans les années 80 pour retrouver des taux d'inflation à deux chiffres et des taux de crédit également. Cette hausse des taux de crédit, là, on va frôler les 4%, elle devrait faire reculer les prix de l'immobilier. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors, oui, elle doit entraîner une correction, mais il faut être prudent dans l'analyse. On a retrouvé aujourd'hui les taux de crédit qu'on avait il y a 10 ans, en 2013.
Bon, évidemment, mais on n'a pas les prix d'il y a 10
voilà,
ans.
C'est ça. La différence, c'est que les prix de l'immobilier, eux, ont pris 28% en moyenne pendant ces 10 années. Mais attention, les salaires ont quand même pris 19% aussi.
Pas cette
année. Donc,
petit message de service.
4% en moyenne. Donc on voit qu'il y a un différentiel de 8-9% qui s'est créé entre la progression des prix et celle des salaires à taux constant. Et donc je pense que c'est à peu près le niveau de la correction qu'on devrait attendre. Cela étant, aujourd'hui, on ne la voit pas. Puisque si on regarde l'évolution depuis le début de l'année, on a une baisse d'à peine 2% à Paris et une baisse presque invisible de moins 0,6% au niveau national.
Vous expliquez ça comment en fait, Olivier? Parce qu'on a beaucoup d'agents immobiliers qui nous disent bon, il y a aussi les vendeurs qui ne veulent pas vendre, surtout ils n'acceptent pas cette baisse des prix. Voilà. Vous l'expliquez comment?
C'est surtout que vous avez un grand nombre de Français qui ont eu la chance de bénéficier de taux de crédit à 1 ou 1,5 ces dernières années. Évidemment, eux, ils n'ont aucune envie de déménager. Parce que s'ils déménagent, ils remplacent un crédit à 1% par un crédit à 3,5%. Ça fait des mensualités qui s'envolent de 25%. Ouais. Et donc, évidemment, eux, ils freinent leur projet de vie. Ils préfèrent rester là où ils sont. Et ça explique la baisse assez forte
des volumes de transactions. On est sur une baisse de l'ordre de 20%
c'est
aujourd'hui.
Ça. Alors que les prix, eux, résistent plutôt bien. Et c'est le même scénario qu'on avait joué en 2008-2009.
Ouais, donc objectif de baisse de prix, on est sur quoi? 10-5%? Combien?
Oui, je vous disais 8-9 tout à l'heure. Je pense que c'est de cet ordre-là.
Là, on parle de moyenne.
Oui, bien sûr.
Ah bah, il y a forcément des
D'une ville à l'autre, il peut évidemment y avoir des phénomènes.
Ça veut dire que ce sera peut-être beaucoup plus douloureux dans certaines villes, dans certaines régions.
Ça peut ponctuellement être plus douloureux à certains endroits, absolument.
Par exemple.
Après, là, on déborde de mon métier. Moi, mon métier, c'est de financer. Je ne suis pas agent immobilier.
Mais vous êtes au contact du marché quand même.
Oui, oui.
On va parler d'un autre sujet. On est toujours dans le logement, mais Emmanuel Macron va organiser une conférence pour repenser la politique du logement. Très honnêtement. On est entre nous. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ?
Alors moi, je ne vais pas retenir mon souffle. Hein, parce que ça fait 20 ans que l'État commande régulièrement des rapports sur le logement.
On attend toujours le CNR, hein, je tiens à le dire d'un mot. Hein, le CNR logement qui devait être rendu le 9 mai et qui le sera finalement le 5 juin. Donc je comprends l'impatience d'Olivier.
Ces nombreux rapports ont tous produit à peu près les mêmes conclusions et émis les mêmes préconisations. Et ont ensuite pris la poussière sans être jamais mise en application. Donc j'ai envie de vous dire, le temps des palabres est terminé. Hein. La crise du logement, elle est vraiment devant nous. On y fait face aujourd'hui. Et nous avons besoin que l'État prenne des mesures
urgentes. Faut faire quoi, Olivier ?
Alors, si j'ai le temps de poser trois idées, je dirais d'abord, il faut retrouver un principe de liberté d'entreprendre ou d'une liberté d'entreprendre, d'un niveau minimal de liberté d'entreprendre pour les professionnels du logement. Là, je pense à la simplification des processus autour des permis de construire et de toutes les...
Quel est le problème aujourd'hui ? C'est l'artificialisation des sols qui freine les projets ? Ce sont les maires, Marie en a souvent parlé, mais qui sont réticents à délivrer les permis de construire ?
C'est à la fois le millefeuille administratif et puis, j'ai envie de dire, la lâcheté politique, parce que on est tous d'accord pour construire des logements sociaux à l'échelle nationale, personne n'est d'accord pour que ce soit en face de chez soi. Et nos maires le savent bien. Donc ça pose une difficulté.
Il n'y a pas que le logement social.
Il y a le logement tout court. Mais enfin là, je pense qu'ils vont très très vite déchanter. Hein. La semaine dernière, on a préparé un petit sujet sympatoche pour rappeler que moins il y a de transactions, moins il y a de ventes, moins il y a de frais de notaire. Et ça va faire une perte de sans doute 3 milliards d'euros pour les départements cette année. Pareil, hein, moins il y a de transactions, moins il y a de ventes, moins il y a de logements, moins il y a de taxes foncières. Je vous rappelle que la taxe foncière et les frais de notaire, ce sont les principales ressources des départements. Donc les collectivités locales vont se rendre compte de l'intérêt de construire et de vendre et d'avoir un marché de l'immobilier dynamique.
Donc première proposition c'est liberté d'entreprendre. Et la deuxième.
Alors la 1B, c'est de faire la même chose sur les questions autour du financement, où là aussi il y a des réglementations qui méritent d'être revues. Je pense évidemment aux normes du Haut Conseil à la stabilité financière.
Mais là on sait que Bruno Le Maire est de votre côté. Bruno Le Maire, il voudrait que les lignes bougent sur la capacité d'endettement.
Sur un petit aspect, non pas sur la capacité d'endettement,
sur la durée
d'après ce que j'entends, ça n'est que sur les 20% de possibilités de dérogation
des banques
qu'ils seraient prêts à revoir les choses. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est que dans le contexte actuel, il faut absolument soutenir les primo-accédants. Et pour ça, selon moi, le meilleur outil, c'est le prêt à taux zéro, qui a déjà fait ses preuves dans ce type de marché. Le prêt à taux zéro, ses niveaux de production ont reculé de 30% en 3 ans. Donc je pense qu'il est temps d'abord de réindexer les plafonds de revenus du prêt à taux zéro qui sont figés depuis 2016. Et ensuite, de réouvrir un peu plus le prêt à taux zéro dans le domaine de l'ancien, dès lors qu'on est sur un projet de rénovation énergétique.
En même temps, le PTZ, lorsque les taux de crédit étaient à 1%, voire en dessous, bon, c'était intéressant, mais à la marge. Aujourd'hui, ça va le devenir.
Et du coup, coûteux pour les finances publiques, accessoirement. Ce qui fait que...
Alors
quand même...
ça, je le conteste.
Ouais.
Je le conteste parce que à chaque fois que l'État octroie un PTZ, certes, il faut compenser la banque de la perte que cela engendre. Mais d'un autre côté, ça permet une transaction qui génère 20% de TVA dans le neuf ou des droits de mutation 5%,
on y revient toujours, hein.
5,5% dans l'ancien. Donc voilà, je pense que ça s'autofinance.
Bon, dernière proposition
et
quand même.
Le dernier sujet, on en parle assez peu, c'est le taux du livret A et de stopper la course folle à la remontée du taux du livret A. Parce que vous savez quoi ? Ce que vous épargnez sur votre livret A, ça ne reste pas dans le bilan de la banque où vous avez votre compte. pour une grande partie, la réglementation impose à la banque de renvoyer ces sommes à la Caisse des dépôts.
Mais là, vous êtes en train de me dire qu'une partie de mon épargne va perdre encore plus de valeur si on freine la remontée du taux du livret A.
Non. La mission de la Caisse des dépôts et consignations, c'est de réutiliser ces sommes pour aider au financement du logement social ou de projets d'utilité publique. Sauf que elle est confrontée à un tel afflux d'épargne sur ses supports livrets A avec
qu'elle
la
sait plus quoi
taux,
en faire.
Qu'elle ne sait plus comment les allouer. L'an dernier, les montants que la CDC collecte à ce titre ont augmenté de 28 milliards d'euros, alors que les montants qu'elle alloue au projet HLM n'ont augmenté que de 3 milliards d'euros. Et la différence, elle est passée où ? La différence, elle part dans un portefeuille de titres, notamment composé de dettes publiques françaises. Donc on a créé une machine infernale qui est digne des Shadocks, si vous me permettez l'expression.
Il pompait.
Et voilà. Et qui détourne une épargne qui aurait pu être utilisée pour financer des projets privés pour éponger nos déficits publics.
Merci beaucoup pour ces trois propositions. Olivier Landrevi, président de CAFPI.